Tout de suite, sur France Culture, du lundi au jeudi, c'est déjà presque une habitude, LSD, la série documentaire. Quelques échos du réel, 55 minutes de radio aux coups humains, un thème, 4 épisodes et le documentaire devient feuilleton. Cette semaine, osez prendre la parole. Au départ de cette série, il y a un silence, une hésitation et peut-être l'envie de hausser le ton parce qu'au fond, ce que l'on veut, c'est se faire entendre. Que l'on soit obligé de parler en public, que l'on cherche à se faire élire, que l'on ait été une victime ou que l'on soit en pleine réunion. Alors avocat, professeur, chef de projet, thésard ou militant, bègue, bafouilleur et timide, mais aussi tous ceux qui ont la gorge nouée, la bouche cousue, qui sont lestés d'un secret trop lourd ou d'une histoire inaudible, ces émissions sont pour vous. Puisque prendre la parole, c'est aussi un peu reprendre la main. Pour commencer, les personnages. Des alcooliques repentis qui assument, des femmes qui ont été harcelées au travail et qui le disent, un rescapé de l'attentat du Bataclan qui raconte pour mieux s'en éloigner, et des associatifs, des bénévoles et un philosophe qui se demandent s'il faut toujours tout verbaliser. Ensuite, le décor. Des salles de réunion que l'on rejoint le soir, des locaux associatifs exigus mais chaleureux où l'on parle, des silences à l'autre bout du fil et des prétoires écrasants où la victime parfois se sent devenir l'accusée. Aujourd'hui, 3e épisode de la série, c'est un documentaire de Céline Leclerc réalisé par Anna Schmuck. On est en France et on s'assoit pour écouter ceux qui veulent être entendus.
Aujourd'hui, c'est une journée très importante pour moi parce qu'en fait, j'ai porté plainte contre Monsieur Revel pour harcèlement moral et harcèlement sexuel. Donc, j'ai passé de mauvaises années, des années noires, parce que justement, mon supérieur hiérarchique était amer. Donc, j'avais peur. J'étais... comment je vais expliquer ça, une petite employée, et bon, sans arrêt, il me criait dessus, il me rabaissait devant du personnel, devant les parents d'élèves, parce que je travaillais en garderie. Et il s'est avéré que, effectivement, en lisant un livre, parce que je comprenais vraiment pas et je cherchais des réponses, je me suis aperçue que c'était du harcèlement moral. Mais bien avant ça, je lui avais quand même demandé un rendez-vous, pouvoir discuter de cette situation, parce qu'elle devenait insoutenable pour moi. Je me détériorais au niveau de la santé, parce que je ne comprenais pas. Quand je rentrais chez moi, c'était insupportable. Je me retenais au travail, et chez moi, bien sûr, tout explosait. Je le vivais très très mal, j'étais sous antidépresseur. Et donc, je lui demande ce rendez-vous pour discuter avec lui, pour savoir s'il y avait possibilité de s'arranger pour que ça aille mieux. Enfin, je lui ai raconté tout ce que je ressentais. Je dis, vous êtes tout le temps sur mon dos, tous les jours. Tous les jours, vous venez pour me dire des choses qui ne vont pas. Et là, il m'a dit, écoute, si tu es gentil avec moi, je le serai. Je ne te ferai plus de réprimande devant les autres, je ne te ferai plus d'engueulade. Et c'est là que le couperet est tombé, en fait. Je me suis laissée faire, en fait. J'étais complètement bloquée. On aurait même dit que je sortais de mon corps, parce que j'étais comme un robot.
Quand c'est arrivé, donc j'étais pas encore conseillère fédérale, c'était le démarrage. Ça faisait c'était en octobre, l'automne 2011. Donc ça faisait un an et demi à peine que j'étais dans le parti. Mais je connaissais pas grand monde. Enfin voilà, j'étais nobody, en gros. Voilà. Donc je connaissais quelques personnes, mais peu. Et puis j'existais pas. Enfin, j'étais personne. Vraiment. Normalement, un harcèlement, il est qualifié à partir du moment où vous dites non et que ça continue. Non, je l'ai dit deux fois et ça a continué pendant des mois. Donc, en effet, que de temps en temps, j'ai répondu, que j'ai pu essayer de l'amadouer, de rentrer dans son jeu pour essayer de le faire taire, que ça se calme. Mais oui, évidemment, comme des femmes victimes de violences vont, pour protéger leurs enfants, pour se protéger elles-mêmes, rentrer dans des logiques qui sont pas du tout celles que les défenseurs d'agresseurs essayent de paraître comme évidentes, que quand on t'agresse, immédiatement, tu colles une baffe, immédiatement, tu réponds, tu es virulente, tu vas porter plainte. Non, Alors, d'une part, moi, les mots, le terme d'harcèlement sexuel, j'ai mis plus de 3 ans à le mettre sur ce qui m'était arrivé. Il est venu quand je suis devenue adjointe à la jeunesse et que les jeunes du conseil jeunes ont fait un travail sur le harcèlement en milieu scolaire. Et que j'ai suivi leur boulot, j'ai été voir leurs expos et c'est là que je me suis rendu compte, parce que c'était tous les aspects numériques, Facebook, les SMS et tout ça. Et c'est à ce moment-là que moi, j'ai mis un mot sur ce qui m'était arrivé 3 ans avant. Avant, j'avais pas de mot dessus. C'était quelque chose d'agressif. C'était une intrusion intime. Enfin, c'était quelque chose de très pénible à vivre, dont je m'étais protégée, qui me faisait sentir en danger, mais je mettais pas de mot dessus.
Donc, je suis alcoolique. J'ai été pendant un certain nombre d'années une alcoolique pratiquante. Et la maladie alcoolique est une maladie que je qualifierais, en tout cas c'était pour moi à l'époque comme ça, de honteuse. Encore plus pour une femme peut-être. C'est quelque chose qu'on dit pas, c'est quelque chose qu'on cache. Dans ma famille on n'en parlait pas, ça se voyait mais ça se disait pas. Donc j'étais pas dans l'idée que la parole allait me libérer à l'époque. Mais j'étais quand même dans l'idée qu'il fallait que j'en parle. Voilà. Donc je suis allée chez les Alcooliques Anonymes. La première réunion, ça a été... Il faut que je vous le raconte parce que c'est assez rigolo. Parce qu'on m'a coupé la parole à cette réunion-là. Je suis arrivée, j'ai vu autour de la table des gens très volubiles, des gens très, très souriants, qui se disaient alcooliques, qui le disaient tout haut et tout fort. Je suis alcoolique. Moi, je me disais, mais je ne pourrais jamais dire ça. Je ne pourrais jamais dire ça, mais c'est une posture qu'ils prennent. Enfin, j'étais dans le jugement, hein, je les regardais d'un drôle d'air. Et à la fin, on m'a proposé la parole en tant que nouvelle. Et là, j'ai commencé à leur expliquer pourquoi moi, c'était pas pareil qu'eux. Que moi, si je buvais, c'est parce que ça, etc., etc. Et là, la personne qui... enfin, on dit modéré, qui animait la réunion chez nous, ce soir-là m'a dit « Tout ça, ça ne nous intéresse pas. »
Donc, j'avais 26 ans, j'étais agent d'accueil à la mairie de Montereau et le chef de la police municipale, donc qui m'a harcelé plus tard, est venu me voir en me proposant le poste à plusieurs reprises. Il vantait une fiche de poste particulièrement riche, une bonne ambiance, etc. Donc, j'ai fini par accepter sa proposition de travailler en tant que sa secrétaire à la police municipale. Alors, c'est difficile. Au moment des faits, en fait, vous analysez pas. C'est des réactions qui sont limite instinctives, en fait, où vous avez un peu peur, et puis vous êtes un peu dans le déni. Vous voulez pas forcément vous avouer que vous contrôlez pas la situation. On analyse. Enfin, moi, en tout cas, j'analysais pas vraiment. Je pensais quand même au fait que je risquais peut-être de perdre mon emploi, que ça pouvait se retourner contre moi. J'avais pas forcément spécialement confiance dans ma hiérarchie, dans leur réaction face à un harcèlement sexuel. Une méfiance qui s'est avérée légitime au vu de leur réaction a posteriori. Après, il y a aussi le fait d'avoir quand même peur de mon harceleur, puisque son harcèlement était teinté par intermittence de menaces. Il insistait sur le fait d'être un ancien parachutiste, d'avoir déjà tué des gens, d'avoir de la nitroglycérine dans son jardin. Et puis, de toute façon, quelqu'un qui vous propose une arme en échange d'un rapport sexuel, en dehors de l'incongruité de la chose, il y a un caractère quand même violent qui certainement, au moins inconsciemment, a joué dans la lenteur de ma réaction directe. J'ai eu beaucoup de mal à... Je lui disais non, que je voulais pas, ça c'était systématique. Mais je pense que c'est pour ça que j'ai jamais osé le menacer frontalement.
Quand on était en fait avec mon ami, on a été dans la fosse et à un moment, le fameux moment où il rechargeait, il y a eu un mouvement de foule et c'est là qu'on a décidé de se lever. Et on a atterri dans les escaliers et puis on a fait partie du groupe qui a passé la nuit en fait sur le toit du Bataclan après. Sans m'en rendre compte, en fait, j'ai commencé à écrire et à taper absolument tout ce dont je me rappelais, qui était très très frais. Je l'avais synthétisé déjà au 36 Quai des Orfèvres la nuit d'avant dans ma déposition. Et tout à coup, en fait, je sais pas, tout est revenu d'un coup. J'ai voulu retranscrire de manière bon, assez clinique, hein, quand on relit le truc assez froide, bizarrement, ce qui s'est passé. Sur le moment, la première fois, c'était important parce que je voulais vraiment que les gens prennent la mesure de ce que j'avais vécu. Sans filtre, sans les médias, sans voilà, vraiment mon expérience. Je voulais vraiment qu'ils comprennent, même si c'était un alignement de sensations. Ben, je voulais vraiment qu'ils se mettent à notre place, en fait. Quand on se rend pas compte tout à fait tout de suite de ce qui se passe, mais que le corps s'en rend compte avant, même la tête, on a l'impression et que on est déjà en train de protéger une personne, et alors qu'on est toujours en train de, dans le déni, dans le cerveau, on se dit mais non, c'est pas possible, c'est pas en train d'arriver. Et c'est quand on a plusieurs éléments épars, comme le sol qui se remplit de sang, l'odeur du sang et l'odeur de la poudre, qu'on identifie pas d'abord comme étant ça, mais comme étant des choses complètement incongrues. Et ben, je voulais vraiment qu'ils comprennent étape par étape qu'est-ce qu'on ressent à ce moment-là. Comment on bascule du normal à du complètement pas normal en quelques secondes, quoi. Moi, je me disais comme ça, tout le monde était au courant une bonne fois pour toutes. J'avais pas à me répéter trop.
Yves, Marilyn, Hélène, Lola et Agnès ont survécu à un attentat, étaient victimes de harcèlement sexuel ou aux prises avec une longue dépendance à l'alcool. Ils n'ont rien en commun, hormis l'expérience d'en avoir témoigné publiquement et à plusieurs reprises. « Raconter ravive la blessure », dit l'une. « Plus je le raconte, plus je m'en éloigne », dit l'autre. Entre ces deux énoncés contradictoires se déploie le vaste spectre des effets de la parole sur celui ou celle qui décide de la prendre. Effet variable aussi selon l'auditoire auquel on s'adresse. Cercle fermé ou assemblé de pairs, médias, et jusqu'à la salle d'audience d'un tribunal qui voit la victime passer d'une mise en récit à une mise en accusation, de l'expression de sa plainte au porté-plainte. Comment s'élabore le storytelling d'un traumatisme? Et surtout, quelle part prend la prise de parole dans un processus plus vaste et complexe de réparation et de résilience?
Tous les jours, on croise des inconnus qui ont vécu des histoires extraordinaires et l'idée, c'était de leur proposer de venir sur scène pour partager ces histoires avec un public.
This idea of just pure storytelling is just so moving, it's so simple and so perfect.
Une scène, un simple micro et une histoire extraordinaire. Et c'est génial de voir le public sourire, rire, s'interroger et parfois même être bouleversé par l'histoire qui est racontée. Et même nous, en amont, dans les coulisses, il nous arrive d'être touchés par l'histoire qui nous est racontée pour la première fois à l'oral. Et c'est vraiment le cadeau que Patrick et moi, on voulait offrir au public français.
C'est Patrick Beau, qui est un ami, qui a monté une soirée qui s'appelle La Veillée, qui est basée sur un concept américain qui s'appelle The Moth. C'est des choses très différentes où les gens parlent très simplement dans une ambiance de veillée, vraiment très bienveillante, d'une expérience qui a changé leur vie. Donc chaque personne va l'un après l'autre raconter une expérience. Et en fait, le principe, c'est que les gens dans le public ne savent absolument pas de quoi il va s'agir, en fait. Et il m'a demandé si je voulais parler de ce qui s'était passé le 13 novembre. Et je me suis dit oui, parce que je voulais faire passer bizarrement les choses positives qu'il y avait à retirer d'une expérience comme celle-là. Je voulais essayer de dire une chose qu'on se dit beaucoup entre victimes, qu'on ressent aussi beaucoup entre victimes. C'est tout ce qu'on a retiré de bon, bizarrement. Et de dire aux gens que, en fait, on peut avoir confiance en soi et on peut avoir confiance en tout le monde, en fait. Parce que ce qu'on a vécu là-bas, et c'était vraiment la teneur de mon entre guillemets discours pas préparé du tout à la veillée, c'était de dire que on a vécu le pire et le meilleur à la fois cette soirée là et donc moi je suis passé en dernier puisque Patrick s'est dit que bon bah, valait mieux voilà garde ça pour la fin parce qu'après c'était un petit peu difficile et c'était très très impressionnant pour moi parce que j'ai perdu mes moyens en fait. Je pensais beaucoup plus réussir à parler de la chose et j'ai eu la gorge sèche instantanément et ça a été très compliqué et parce que aussi À un moment, je me suis... Enfin voilà, j'étais dans une salle de spectacle à Paris, en train de parler de ça. Et le parallèle a été... Je l'ai pris dans la gueule. En fait, c'est bête, hein, mais je l'avais pas vu. Et c'est en étant sur scène, quand j'ai dit... À un moment, j'ai dit... on était à droite de la scène, par ici, et j'ai montré des gens qui étaient dans le public, voilà, et à partir de ce moment-là, ça a été extrêmement déstabilisant.
La plainte commence par le sentiment que l'on pourrait dire quelque chose qui nous sauverait du malheur dans lequel on est plongé, ou de la souffrance dans laquelle on est plongé.
Alain Cugnot, philosophe.
Et en général, quand on vit quelque chose de difficile... ou quelque chose d'épouvantable, on tient parce qu'on pense au récit qu'on en fera à ses proches. Or, il se passe à ce moment-là une chose terrible, c'est que lorsque vous retrouvez vos proches, vous dites trois mots et vous comprenez qu'ils ne comprennent pas. Et que donc, ils vous renvoient votre plainte de telle sorte que vous ne pouvez plus l'articuler. Et ça, c'est terrible. Il paraît que c'était une des grandes souffrances des rescapés des camps, voire Primo Levi, voire Saint-Prunes, qui tournent autour de cette question de l'impossibilité, alors même que les choses ont été vécues, dans l'anticipation d'une compréhension.
Simone Veil, en 2007.
De toute façon, ce qu'on a vécu est tellement... hors du monde, différent qu'on ne peut pas le faire comprendre, et que nous sommes à la fois obligés d'en parler, c'est une nécessité, c'est une promesse qu'on a faite, c'est un engagement, c'est et en même temps chaque fois frappé de ce que c'est une expérience incommunicable. Ce qui était le plus terrible, c'est cette humiliation permanente, ce sentiment de déchéance et d'essayer de lutter contre. Et ça, c'est incommunicable. Parce que ce qui est insupportable, c'est de parler et de ne pas être entendu. C'est insupportable. Et c'est arrivé tellement souvent, à nous tous, que quand nous commençons à évoquer, que nous disons quelque chose, il y a immédiatement l'interruption. Il y a la phrase qui vient couper, qui vient parler d'autre chose, parce que nous gênons. Profondément nous gênons. Pour des raisons probablement très profondes, très... qui ne sont pas simplement le fait qu'on veut nous faire taire par indifférence, c'est parce qu'on n'a pas envie d'entendre.
Je crois que c'est la première expérience qu'on fait de la plainte, et ensuite on se balade avec peut-être l'illusion que si l'on arrivait vraiment à dire ce qui s'est passé, eh bien le motif de la plainte disparaîtrait.
Dans une réunion alcoolique anonyme, quand on témoigne, en face de soi, on a des personnes qui hochent la tête, et ou qui sourient, ou qui même qui rient, parce qu'on rit aussi. Hein. On rit aussi, c'est important de pouvoir, entre guillemets, se moquer gentiment de nous, quoi. On a été pitoyable, hein. J'ai été pitoyable dans l'alcool, j'ai fait des choses insensées. De pouvoir les dire aujourd'hui en plaisantant... c'est quelque chose de libérateur. Et puis, c'est aussi quelque chose qui fait du bien à celui ou celle qui vient d'arriver. Le témoignage, c'est un don qu'on se fait à soi-même et qu'on fait aux autres. C'est quelque chose de vraiment très précieux. Il y a des paroles qui portent, hein, qui portent et qui nous portent. Voilà, hein, celle-là, c'en est une. Je m'appelle Agnès, je suis alcoolique. Cette fameuse phrase que je pensais ne jamais pouvoir dire, je me suis mis à la dire avec, eh bien, je vais dire peut-être même avec une certaine fierté. En tout cas, c'est quelque chose qui m'a extrêmement libérée. J'avais vraiment besoin de faire mien cet état. La prise de parole est constructive. Elle fait partie intégrante de mon rétablissement. Voilà, hein, c'est une méthode. C'est ma méthode de rétablissement. C'est de parler de ma maladie, de parler de où j'en suis aujourd'hui. De parler de mes mal-être quand j'en ai. Plus je raconte ma maladie, et mon rétablissement bien sûr, mais plus je raconte ma maladie, plus je m'en éloigne.
faut aussi distinguer entre parler, dénoncer, porter plainte. C'est à chaque fois des actes extrêmement différents. Donc, effectivement, on a cessé de répéter, nous, à la VFT, depuis 2 mois, que les femmes ne cessaient de parler. Ça ne veut pas pour autant dire qu'elles dénoncent et qu'elles portent plainte. Parce que pour dénoncer, et c'est là qu'en effet, on a essayé d'attirer l'attention d'un certain nombre de personnes, dénoncer, ça suppose aussi de faire le pari d'une réponse à cette dénonciation. Et ce pari-là, les femmes ne peuvent pas le faire parce que cette réponse n'existe pas. Presque pas. Ou en tout cas, elle est extrêmement lacunaire.
AVFT, bonjour. L'association lutte contre les violences sexuelles dans les relations de travail. Vous pouvez nous écrire sur contact@avft.org. Sinon, ce répondeur prend vos messages. À bientôt.
Nous, ce qu'on fait à l'association,
Marilyn Baldec,
quand les femmes qu'on vient voir n'ont pas encore révélé les violences dont elles sont victimes à qui que ce soit, ce qui est assez souvent le cas, on commence par établir un récit avec elles des violences, ce qui peut prendre des jours, des semaines et parfois des mois, parfois entre le premier rendez-vous et le moment où on estime que le récit est prêt à pouvoir être utilisé de manière publique, que ce soit pour mettre en cause l'employeur devant un conseil de prud'homme, que ce soit pour mettre en cause l'agresseur devant une juridiction pénale, que ce soit pour une prise de parole publique, éventuellement médiatique. Donc il y a énormément d'étapes avant ça. Nous, justement, on sait bien que pour les femmes, ça n'est pas une partie de plaisir d'avoir à relater de multiples fois les violences dont elles ont été victimes, et parce qu'en plus, il y a des injonctions extrêmement lourdes qui pèsent sur cette parole. Il faut qu'elle soit extrêmement précise, il faut qu'elle soit non évolutive, alors que la mémoire est évolutive, alors que les chocs post-traumatiques ont pour effet d'effacer certaines parties qui peuvent ressurgir plus tard. Donc c'est excessivement compliqué pour les victimes, parce qu'elles pourraient avoir tendance à se censurer en disant « je sais qu'il s'est passé ça, mais comme je ne l'ai pas dit la première fois, est-ce qu'il faut que je le dise ?» parce que c'est important, ou est-ce qu'il faut que je le taise, parce qu'on va me reprocher de ne pas être constante. Alors, il ne s'agit absolument pas de construire un récit, hein. C'est vraiment nous assurer qu'il n'y a pas de partie du récit qui serait manquante, ou qui nous manque des détails qui sont susceptibles de crédibiliser sa parole.
Je suis Laure Ignace, je suis juriste à l'Association européenne contre les violences faites aux femmes au travail. C'est important, le récit des faits, parce que en écrivant, les femmes prennent du recul et en fait imbriquent la stratégie. En réalité, d'un coup, elles se rendent compte de comment les choses se sont mises en place. Notamment quand les violences ont duré des années, quelles ont été les formes de chantage mises en place par l'agresseur. Et puis surtout, en se plongeant sur un récit, elle se rappelle de violences sexuelles dont elle ne se rappelle pas comme ça en en parlant directement. Il y a une idée reçue qui consiste à dire « de toute façon, il n'y avait personne, c'est un huis clos, donc c'est parole contre parole ». Mais c'est jamais le cas. C'est-à-dire que pour venir corroborer une parole qui, par ailleurs, est constante, puisqu'on demande aux femmes victimes de violences d'avoir un récit constant des agissements qu'elles dénoncent, il y a toujours d'autres éléments qui viennent corroborer cette parole. Et donc, c'est pas une parole contre une autre parole. Mais les femmes, elles n'arrivent jamais avec juste leur récit. Elles ont la plupart du temps des conséquences médicales qui attestent d'un syndrome de stress post-traumatique important. Elles ont les attestations même des témoins indirects, donc de leur famille, de leurs proches, à qui elles se sont confiées sur les agissements dont elles ont été victimes et qui ont constaté la dégradation de leur état de santé. Et puis, il y a aussi toutes les démarches que les femmes ont faites qui sont cohérentes, concordantes avec leur dénonciation. Et tout ça, c'est des éléments qui corroborent leur parole et donc viennent l'appuyer. D'où le fait qu'on lutte à l'association contre cette expression qui est fausse en réalité.
Prendre la parole pour ces femmes, c'est presque par définition commencer à transformer Je dis pas mentir, mais c'est-à-dire que prendre la parole pour décrire de manière factuelle ce qu'il s'est passé, parce que c'est aussi ça que demande la justice. C'est un récit qui soit le plus factuel possible. Or, ben c'est pour les victimes un récit qui est chargé d'affect. Donc il faut le débarrasser en fait de toute cette part de subjectivité. Et donc dès qu'elles prennent la parole, c'est déjà plus leur histoire. Et c'est aussi pour ça que c'est extrêmement compliqué. Donc c'est plus leur histoire. Et donc à partir du moment où elles parlent, elles ne sont déjà plus elle-même. Et ça, c'est quand même quelque chose qu'on ne dit pas souvent et qui est quand même assez monstrueux, finalement. Ce qui fait que, à force, effectivement, de rabâcher ce qui leur est arrivé, ce qui a été commis à leur rencontre, bah, ces femmes aussi, comme à chaque fois qu'on raconte la même histoire plusieurs fois, on finit par la raconter de manière mécanique et presque robotisée, ce qui finit parfois par leur être reproché, par devenir préjudiciable, parce que les différents interlocuteurs, ceux qui vont arriver au bout de la chaîne, et singulièrement les juges lors du procès pénal, qui sont les tout derniers interlocuteurs des victimes, peuvent avoir en face d'eux bah, des femmes qui sont justement complètement débarrassées des émotions qui étaient initialement associées à leur récit, qui peuvent être par ailleurs hein, complètement dissociées pour d'autres raisons, mais du coup qui arrivent avec un récit qui du point de vue des juges, peut ne pas sonner juste, parce qu'elles ne pleurent pas, parce que leur voix n'est pas chevrotante, parce que justement elles expriment une certaine forme de distance hein, par rapport aux faits, d'autant qu'en fait la distance elle est aussi liée au temps qui s'est écoulé, hein, et que ce serait susceptible, en tout cas, d'entacher une partie de leur crédibilité.
D'un moment où on raconte des faits qui finissent par devenir une fiction. Je pense que c'est un truc qui finit par arriver. Même très bizarrement, en fait, quand on est dans le cœur de l'action, on n'est jamais autant vivant. Mais en même temps, notre cerveau traite les informations comme une fiction, sur le moment même. Par exemple, moi, j'ai jamais vu en vrai des corps très criblés de balles. J'ai jamais vu autant de sang, j'ai jamais senti la poudre. Et quand on en voit, et quand on se retrouve à côté aussi d'un blessé à qui on doit faire un point de pression, un point de compression et des choses comme ça, ou même que je me suis jeté sans comprendre vraiment ce qui se passait sur ma compagne, très bizarrement dans la tête, c'est à la fois un mélange d'instinct et un truc qui te dit... Dans Piège de cristal, c'est ce que ferait Bruce Willis, tu vois. Il y a un truc qui te dit, c'est comme ça que doivent réagir les héros, et donc c'est comme ça qu'il faut le faire. Et donc, c'est même pas de l'ordre de la réflexion. C'est, tu le fais, mais en même temps, il y a ce truc dans la tête qui te dit, t'es dans un processus de narration aussi, dans le drame. C'est assez étrange. Et ce truc-là, par contre, enfin, quand ça arrive, on est extrêmement vivant, alerte. Par contre, c'est vrai qu'après, quand on répète le récit et qu'on va structurer un peu le chaos, il y a la tentation de la narration, il y a la tentation de la dramatisation qui est là. Surtout que moi, c'est mon métier. Donc je connais très bien les ressorts de ce genre de choses. Et c'est assez... moi, j'ai trouvé ça obscène, cette tentation-là. Et du coup, c'est ce qui m'a un petit peu réfréné dans ma prise de parole après, par la suite. Enfin voilà, c'est vrai que quand on rabâche l'histoire, on a tendance à... Ça devient une histoire. Voilà, ça devient plus ce moment, bizarrement, où on était le plus vivant de sa vie. Parce que c'est aussi un truc qui peut paraître aberrant ou obscène pour certaines personnes. Mais c'est le moment où on se sent le plus vivant de sa vie, c'est quand c'est la vie ou la mort, tu fais un acte et ça peut être ça peut être l'un ou l'autre.
Pour tous les phénomènes de souvenirs, c'est la même chose, c'est-à-dire qu'il y a un moment où on comprend, un moment où on est intelligent, et ce moment d'intelligence n'est curieusement pas directement relié au langage. Il est comme extérieur au langage. Et le mettre en récit, c'est effectivement le transformer, cette intelligence en une autre intelligence, en une autre compréhension. Et dans le cas du porter-plainte, il va falloir transcrire une histoire qui a été vécue d'une manière extrêmement concrète. Il va falloir le rendre intelligible pour un juge. Et à ce moment-là, vous ne reconnaissez plus ce que vous avez vécu, parce que ça a été, non pas une autre mise en récit, mais carrément une transcription. Et c'est pourtant cela qui va être jugé.
Depuis un an et demi maintenant, la commission Vérité et Réconciliation tente de faire à la fois la lumière sur les horreurs de l'apartheid, mais aussi de réconcilier deux communautés destinées à vivre ensemble.
L'horreur de l'apartheid, le père Lapsley la porte dans sa chair. Il est l'une des 14 000 victimes qui ont déjà témoigné devant la commission d'enquête qui sillonne le pays depuis plus d'un an. Sa seule revendication, la vérité. Aujourd'hui, le père Lapsley apporte une aide psychologique aux victimes de violences politiques et les encourage à parler. Il sait mieux que personne l'importance de la confession, une confession publique à l'échelle de la nation.
Moi au moins, j'ai eu la chance de raconter mon histoire à travers le monde. Mais il y a une chose très importante. C'est qu'ici, il y a pour la première fois, enfin, une commission mise en place par le président et le parlement et qui reconnaît et admet que mon histoire est vraie.
La thérapie de groupe a commencé en avril 1987. À la télévision, chaque semaine, les témoignages les plus insupportables, les aveux les plus monstrueux.
We just heard on the door, the police were banging with their guns and they kicking the door. And we all just jumped out. We didn't know what to do because there was no one else there. It was only the three of us.
Le témoignage en soi, moi en tout cas pour moi c'est violent. Et voilà, depuis que je me suis mis à témoigner, je vois bien que je suis plus fébrile quand même psychologiquement. J'ai des petites choses, des petits signes. Bon voilà, maintenant je vais quand même beaucoup mieux, je suis plus forte. Mais en tout cas pour moi témoigner c'est tout sauf me sentir plus distante et moins touchée par mon histoire. Moi, je suis assez pudique dans l'expression de mes souffrances, donc j'ai jamais vraiment raconté jusqu'à très récemment ce que j'ai vécu dans les réelles proportions, de l'écho que ça a eu en moi dans les réelles proportions. C'est des choses sur lesquelles je me suis jamais vraiment étalée. C'est pas dans ma personnalité de toute façon. C'est-à-dire en parler spontanément à des gens proches. Ça peut, à un moment donné, être libérateur, ça peut permettre d'exorciser un minimum le mal qu'on m'a fait. Mais tous les témoignages que j'ai faits dans les médias ont été éprouvants. Témoigner, c'est raviver. Clairement, pour moi, témoigner, c'est raviver. Peut-être parce que j'ai pas encore le recul nécessaire. De toute façon, tant que mes affaires judiciaires seront en cours, je pourrais pas tourner la page. Donc je suis encore dans le vif, même 8 ans après. Donc d'en témoigner, c'est raviver.
C'est un supplice aussi de devoir revenir encore, se justifier, répondre aux questions, devoir encore démontrer, trouver les bons mots pour expliquer leur calvaire, pourquoi elles n'ont pas réagi, pourquoi elles n'ont pas déposé plainte plus tôt, pourquoi vous n'avez pas, vous lui avez pas mis une claque et pourquoi vous n'avez pas démissionné. Et en fait, ça fait tellement de fois qu'elles doivent se justifier sur leur soi-disant absence de réaction, sur la manière dont elles ont exprimé ou pas exprimé leur absence de consentement, que c'est aussi voilà, parfois un supplice de devoir encore venir dire au tribunal. Et puis le temps a passé, donc elles sont aussi passées un petit peu à autre chose. Il y a des femmes, au bout d'un moment, elles n'y voient plus beaucoup l'intérêt. Entre-temps, il s'est passé 4 ans, 5 ans, depuis que j'ai déposé plainte. Là, ça fait que 2 ans, mais dans certaines situations, c'est beaucoup plus long que ça. Et devoir encore revenir, affronter, elles y voient moins l'intérêt. Pour d'autres, c'est fondamental et c'est ce qui va leur permettre vraiment de tourner la page. c'est difficile. Certaines arrivent complètement effondrées, font des crises de spasmophilie, de tétanie à l'audience rien que de revoir l'agresseur. Et d'autres, justement, on les voit la tête haute. On les a vu changer. Madame Le Menu, je l'ai vu changer au fil des années. La première fois que je l'ai vue, c'est pas du tout la femme que vous voyez aujourd'hui. Elle a retrouvé en partie sa dignité. Elle peut le regarder en face. Elle a sa stature physique a changé.
La chose importante qui a été très bien décrite par François Roustan, c'est que je m'attache à ma plainte plus qu'à toute autre chose. C'est-à-dire qu'elle me devient nécessaire et je ne peux plus la quitter. Et si je me sépare d'elle, eh bien j'ai l'impression d'une frustration et même d'une mutilation. Et donc ce n'est qu'en troisième lieu qu'il est possible de passer à encore autre chose qui est par exemple porter plainte. C'est-à-dire mettre dans un espace tout à fait public ce qui jusqu'à présent n'a été que privé. Et ce passage à l'espace public, il est une métamorphose, on change de registre, et je vous avoue que je ne sais pas ce qui se passe à ce moment-là. Et je crois que le secret de ce porter plainte, on ne peut pas le dévoiler. Il restera à tout jamais clos, et il y a une sorte de fort intérieur inaccessible chez les personnes, et c'est à ce niveau-là que ça se situe. Donc il y a une espèce de grand écart dans le fait de porter plainte, entre cette publication qui est très énigmatique, on parle de transparence, mais rien n'est plus opaque en réalité que les choses transparentes, et puis cette intimité dans laquelle on souffre, on survit, on est heureux, on peut être à la fois heureux et malheureux, enfin voilà.
L'écologiste Denis Baupin est accusé de harcèlement, d'agression sexuelle. C'est ce qui ressort d'une longue enquête menée par nos confrères de Mediapart et de France Inter.
Denis Baupin, député de Paris, vice-président de l'Assemblée nationale, mis en cause par plusieurs femmes de son ancien parti politique. Elle dénonce harcèlement et agression sexuelle. Parmi elles, Sandrine Rousseau, l'une des porte-parole d'Europe Écologie Les Verts, dit avoir été victime d'agression il y a plusieurs années.
C'était à Montreuil, en 2011, j'étais à une tribune, j'organisais une réunion et à un moment donné j'ai fait une pause, j'ai voulu aller aux toilettes et dans le couloir, Denis Baupin m'a calé contre un mur et a cherché à m'embrasser de force.
Denis Baupin, lui, conteste les faits, mais il a tout de même démissionné aujourd'hui de son poste de vice-président de l'Assemblée nationale.
Avec Sandrine Rousseau, trois autres victimes parlent à visage découvert. Isabelle Attard, députée du Calvados, évoque les dizaines de textos provocateurs envoyés quasi tous les jours entre 2012 et 2013. Un an plus tôt, Hélène Debost, adjointe au maire de Mans, en est également victime.
Quand on a décidé de parler, donc ça c'était en mars, c'était début mi-mars, on a été porté plainte début juin. Donc il a fallu encore 3 mois. Entre le moment où on a décidé de parler, donc on savait qu'on se mettait en danger, qu'on allait, on prenait le risque en effet d'être humilié, de foutre en l'air nos carrières politiques. Enfin, on savait les risques qu'on prenait. Et puis, porter plainte, ça veut dire qu'on nous a aussi posé la question de savoir si on accepterait de se prêter à une expertise psychiatrique, enfin des choses comme ça. Donc c'était compliqué en fait. La justice, elle a un rythme très lent, et que du coup votre vie pendant 2, 3, 4, 5 ans, et eh ben elle peut être chamboulée d'un moment à l'autre, parce que la justice va décider d'une chose, que vous pouvez être appelé à témoigner à n'importe quel moment de votre vie, quoi qu'il vous arrive, que vous alliez bien, pas bien, et tout ça c'est extrêmement angoissant en fait, c'est très insécurisant, surtout quand c'est sur des affaires de ce type là où on sait que l'objectif va être de nous discréditer, et pour nous discréditer, de nous faire passer voilà, enfin, pour des traînées, pour des menteuses. Mais qui a envie d'aller se faire traîner dans la boue parce qu'il va aller porter plainte parce qu'il a reçu des SMS salaces? Moi, quand je vois les propos d'Emmanuel Pierrat sur mes SMS à moi, bah, excusez-moi, mais ces propos eux-mêmes justifient la difficulté qu'il y a à dire les choses, en fait.
Quand on voit comment elles sont encore reçues par les commissariats, par les gendarmeries, pour certaines. Alors heureusement, il y a des changements dans le bon sens. Hein. Mais là, je lisais encore des procès-verbaux hier d'une femme qui a déposé plainte pour viol. La question qu'on lui pose à chaque fois, c'est « Est-ce que vous avez eu des orgasmes ?» Voilà, donc oui, c'est sûr que ça peut être décourageant et certaines ressortent de leurs auditions police en disant j'arrête tout. Et ça, c'est la catastrophe, quoi. Quel message on envoie aux autres? C'est des femmes qui vont aussi connaître d'autres femmes, discuter avec d'autres femmes, et si elles sont amenées à conseiller d'heureux, à me leur dire « mais n'y va pas, ça sert à rien ».
Beaucoup de femmes disent qu'elles n'ont jamais eu honte d'avoir été victimes de violences, et ça aussi, c'est un peu une tarte à la crème, la honte des victimes. Certaines n'ont jamais eu honte et n'ont pas parlé pour des raisons qui sont complètement extérieures à elles-mêmes. Je savais qu'on ne me croirait pas, j'allais perdre mon travail, j'avais des enfants à charge, n'avais pas envie d'entendre que je l'avais bien cherché, je voulais me préserver de tout ça. Puis il y a aussi l'idée pour un certain nombre de femmes, et qu'on, malheureusement on n'est pas tout à fait en mesure de contredire, que parler ne va pas servir à grand-chose. Le procès pénal, donc vraiment, je parle pas de la procédure, mais vraiment le jour du procès, enfin, je pense que c'est un espace qui est satisfaisant pour une minorité de victimes. D'abord parce que on n'a pas le temps. On est dans une justice, d'abord, qui manque de temps, qui manque de moyens, qui est chronométrée. Donc, on peut pas dire que le procès soit un espace de parole. En tout cas, quand il l'est, c'est au terme, la plupart du temps, d'un rapport de force excessivement important entre les parties civiles, donc les avocats des parties civiles, et le tribunal, la cour, pour obtenir ce temps de parole. En fait, c'est un marchand de tapis, c'est-à-dire que les avocats de parties civiles, en tout cas quand ils font bien leur travail, vont négocier le temps dont on va disposer pour le procès. Et donc, on demande 2h30, on va nous dire « bah non, vous aurez 1h30 », et puis « bah non, finalement, on coupe la poire en deux et puis on aura 1h15. Quoi. Et puis c'est extrêmement normé, c'est-à-dire qu'on demande aux victimes de parler à un certain moment du procès et pas à un autre. Et évidemment, la parole, c'est plus compliqué que ça. La parole, elle ne peut pas s'exprimer de manière spontanée au procès. Elle est très ritualisée et on ne peut pas considérer donc, que ce soit un espace de parole, ne serait-ce que pour cette raison qu'on demande aux victimes de parler à un certain moment et pas à un autre. Et il se trouve que c'est peut-être à cet autre moment-là qu'elle aurait eu envie de dire quelque chose et que l'idée importante qu'elle aurait voulu transmettre au tribunal surgit.
Mais la justice n'est pas faite pour répondre aux victimes. Et je crois qu'il y a un énorme malentendu sur cette question. La justice, elle est faite pour que la loi soit appliquée, pour que le droit soit respecté. Et la tâche du juge, ça n'est ni la vérité, ni la réparation, c'est la proclamation du droit. Et que le droit est force, enfin que la loi est force de loi, et que les choses puissent se clore. C'est ça la préoccupation de la justice pénale. Il s'agit de rétablir ce qui, dans la cité, a été rompu. Alors, c'est terrible parce que les victimes ne comprennent pas ce fonctionnement-là. Les victimes attendent ce qu'elles attendaient de l'expression de leur plainte, c'est-à-dire à la fois la réparation, surtout la reconnaissance, et enfin que ce qui leur est arrivé ne soit pas inutile, mais qu'il y ait comme une suite, et que par le biais du procès, quelque chose bouge qui fasse que ce qui leur est arrivé n'arrive pas ou n'arrive pas de la même façon à d'autres personnes.
Impeccable. Je vous laisse, je reprends le tribunal. Là. À bientôt. Voilà.
Je pense que là, après l'audience, ce sera justement encore là peut-être une page à tourner et pouvoir me reconstruire parce que bon, j'ai confiance en la justice et j'espère que voilà quoi, ce sera bénéfique pour moi.
Qu'est-ce que vous en entendez de cette audience d'aujourd'hui?
Aujourd'hui, j'attends que justice soit faite, que l'on puisse reconnaître qu'il y a des personnes qui sont méchantes, qui sont pervers et qui font du mal autour d'eux, et que que ça cesse, qu'on voit ces personnes malgré la belle image qu'ils peuvent montrer, qu'ils sont à l'intérieur très très méchants et qui peuvent détruire des personnes. Parce que je pense que moi, je suis affectée, mais j'ai d'autres collègues qui le sont encore plus que moi. Ouais. Donc ouais, que justice soit faite.
Le 1er juin, le tribunal administratif a rendu deux jugements en ma faveur et donc a reconnu la réalité du harcèlement sexuel que j'ai subi. Le rapporteur public a dit qu'il fallait une réparation exemplaire au vu de la gravité des faits. Donc j'ai pu obtenir au bout de 8 ans enfin satisfaction. C'est très dépaysant. Et voilà, ça a été un vrai soulagement, même si je sais que le combat judiciaire est loin d'être fini. Je pense que le plus important, c'est d'essayer d'être le plus lucide possible sur quel chemin va le plus, a priori, garantir la guérison. J'ai besoin de me réapproprier la vérité. J'ai besoin de ne plus être aliénée par les mensonges. C'est extrêmement important pour moi. D'autant qu'en plus, dans mon affaire, vraiment, enfin, j'ai un dossier qui est quand même assez évident. Et la décision de justice, pourraient permettre d'effacer un petit peu l'opprobre que la hiérarchie a jeté sur moi. Et en cela aussi, ce serait résilient. En dehors du harcèlement, et moi j'ai besoin aussi de retrouver confiance dans les institutions judiciaires en général, c'est extrêmement important aussi. Si un juge, qui serait l'autorité ultime, dit voilà, oui c'est vrai, oui elle a été harcelée, c'est quelque chose qui serait vraiment cathartique pour moi, qui pourrait vraiment m'aider à me réparer. Ben, j'ai besoin que la vérité triomphe, et c'est la justice qui est souveraine dans la matière, et je me sens vraiment, malheureusement, parce que j'essaye de ne pas être tributaire de ça, parce que je sais que voilà, les aléas de la justice, moi je ne sais pas comment ça va finir. Mais malheureusement, c'est extrêmement important pour moi. Et je sais que voilà, le caractère gratuit du mal qu'on vous fait, c'est quelque chose qu'il faut apprendre à soigner tout seul. Ça, c'est quelque chose, on pourra vous donner tous les dommages et intérêts. Ça ne compensera jamais cette gratuité-là. Mais au moins, il faut que la justice voilà, fasse son travail sur la reconnaissance des faits, la reconnaissance des responsabilités pour moi, mais aussi pour toutes les femmes. Parce que qu'est-ce que ça veut dire de la société, de sa vision sur les femmes, si même dans un dossier pléthorique, on ferme les yeux, on dit qu'il ne s'est rien passé. C'est aussi extrêmement important pour les autres femmes.
C'est pas la parole qui ravive les souvenirs, c'est pas la parole qui ravive les sensations. Enfin, pour ma part, c'est tous les jours, c'est marcher dans Paris, c'est quand on se retrouve dans une soirée avec plein de gens qui sourient quoi, et qui dansent. C'est le métro, c'est les gens. C'est pas de l'ordre de la parole.
C'est pas vrai du tout qu'il suffit de dire, même devant un public réceptif, ça n'est pas sûr. Et parfois, le silence est aussi réparateur. On peut s'éloigner d'un traumatisme en gardant le silence.
Moi, j'ai pas voulu vraiment en reparler de manière globale, en tout cas. En fait, assez vite, on se retrouve dans cette espèce de spirale où en fait, on se retrouve à juste nourrir la peur en parlant. Et j'avais pas trop envie de ça, en fait.
Georges Semprun, en 1980.
En 45, en rentrant des camps d'Allemagne, je me suis très vite aperçu qu'il fallait essayer d'oublier, mais pas d'oublier d'une façon freudienne, d'oublier volontairement, de censurer volontairement, parce que sinon c'est impossible. Sinon, d'abord, on vit entre des survivants, des gens qui racontent tout le temps, tu te souviens pas, et le jour, etc. Et donc, c'était pas possible, surtout quand on a 21 ans, c'est un peu difficile de vivre comme ça. Alors, j'ai complètement oublié, j'ai essayé d'oublier, j'ai réussi à oublier.
Enfin, ça relève un peu du mythe de la transparence, cette croyance que si l'on dit, parce qu'on dit, alors c'est vrai, ça soulage, mais il y a l'après-dire. Qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce qu'ils ont compris? Que vont-ils en faire? Et ce qui devait être une clôture devient au contraire la prolongation de la souffrance. Il y a vraiment une part secrète qu'il est, mais tout à fait essentielle de préserver. Et cette manie de dire, tout peut être dit, ben non, tout ne peut pas être dit, non, c'est pas vrai. Parce que nous parlons à partir de ce que nous taisons.
Philippe Mangeot, président d'ACT UP de 1997 à 1999.
C'est David Halperin, un philosophe américain. Il parle d'ACT UP New York, mais il connaît très très bien Paris. Il habite pour une part en France aujourd'hui. ACT UP a été la pratique théorique du focaldisme. Donc, le dernier travail de Foucault est un travail qui porte sur l'injonction à parler. Le premier volume de l'histoire de la sexualité, La volonté de savoir, porte précisément sur la façon dont la sexualité est devenue un objet de discours dans le cabinet psychiatrique, dans le cabinet médical. C'est-à-dire qu'il faut la dire, il faut se dire. L'injonction à se dire, c'est-à-dire l'injonction à s'identifier, en un sens. Et de ce point de vue, Foucault était sans doute le plus à même pour penser ces dispositifs de prise de parole et pour penser aussi la façon dont il rentrait dans un rapport de force. La façon dont l'injonction à parler est aussi partie prenante d'un dispositif de contrôle des corps, des identités, d'assignation des êtres à telle ou telle identité. Je crois qu'on a du mal à imaginer le changement radical de paradigme qui a dû s'opérer entre ce qui s'était pensé, dit, fait d'un point de vue militant dans les années 70 et puis ce qui arrive avec le sida. En gros, les homosexuels décident de sortir du cabinet médical, quoi. Et puis voilà, le sida nous oblige à y rentrer à nouveau. C'est quoi ACT UP ? ACT UP s'est créé à Paris en 89. C'est une prise de parole. Mais c'est une prise de parole c'est une énonciation pure, on pourrait dire ça. C'est-à-dire que les premiers militants d'ACT UP, moi je suis arrivé un peu plus tard, ne disent pas grand-chose sinon ceci, nous sommes malades du sida. Ils ajoutent d'ailleurs, nous sommes des PD malades du sida. Et en tant que tel, c'est énorme. Et on a peine à s'en souvenir aujourd'hui. C'est-à-dire que tout le discours d'ACT UP qui va se construire ensuite se construira sur la base de cette prise de parole inaugurale et qui, en tant que tel, est un geste politique.
February the 10th, Sunday. Noise. Peace.
En tout cas, nous, ce qu'on peut observer à l'association, c'est que les femmes qui s'en sortent le mieux sont celles qui se sont engagées, en fait. Sont celles qui ont puisé dans les violences dont elles ont été l'objet, un souffle militant, qui ont plaqué une grille d'analyse politique sur ce qui leur était arrivé. C'est pour ça que, effectivement, c'est complexe et que la justice toute seule, ça, c'est pas suffisant. La prise en charge psychothérapeutique, même de bonne qualité, ça n'est pas suffisant. Que les victimes ne peuvent pas totalement s'en sortir sans un volet politique qui permette pour elles d'élucider ce qui s'est passé.
Proved by means of the sense of hearing. If someone walks fast and one pricks up one's ears and listens, say at night, when everything round about is quiet, one hears, for instance, the rattling of a mirror not quite firmly fastened to the wall.
C'est vraiment quelque chose que j'ai ressenti comme un espace de confiance. J'avais vraiment d'entrée l'impression, dans ces réunions, je pouvais tout dire, absolument tout dire. Et d'ailleurs, j'ai tout dit. J'ai depuis 13 ans que je suis dans les groupes alcooliques anonymes. Je pense que j'en ai dit plus à des membres des alcooliques anonymes que je connaissais ou que je ne connaissais pas qu'à mes plus proches. Au lieu de partager un verre, moi je partage la parole.
C'était Oser prendre la parole, Victime, je libérerai ma parole, par Céline Leclerc, réalisation Anna Smuk, avec Agnès, Marilyn, Lola, Hélène Debost, Marilyn Baldec, Laure Ignace, Yves Bigerel, Philippe Mangeau et Alain Cugnot. Merci à Laurence Ponagel et à François Perrin, ainsi qu'à Petra Menzel pour son aide précieuse. Archivina, Manuela Dubessy et Annie Lozana. Prise de son, Yvan Turc, Benoît Gaspard et Bian Fressy. Mixage, Delphine Baudet. La série documentaire, coordination Perrine Kervran, attachée de production, Marie-Vonne Abolivier.
Voilà, vous pouvez vous remettre à discuter. LSD, la série documentaire, c'est tout neuf, mais c'est tout pour aujourd'hui. C'est proposé sans bafouiller par Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier. Et si vous voulez avoir quelque chose à en dire, bibliographie, lien, mais aussi nous podcaster ou nous réécouter pour écouter au lieu de parler, c'est sur la page de l'émission sur franceculture.fr. Vous pouvez nous trouver aussi sur Facebook et nous suivre sur Twitter. Demain, dernier épisode, même au travail, il faut briller en réunion, alors à l'oral aussi, je serai un salarié performant.